Versailles. Bobo, le 18 janvier, Bobo. Bondry, Fratisserie, Lèche, Bandeux, Philomé, Boudimaille.
J'ai revu trois fois cette semaine.
Si Prague a perdu son âme et son poète, son cœur s'est brisé comme un verre projeté.
Troulandry, Fratisserie, Glèche, Bandeuse, Philomée, Primaille,
j'ai revu trois fois cette semaine.
Décor à Carfessier, au dernier qui vous mettra. Canal Sud 92.2, canalsud.net sur Internet, c'est l'heure de l'émission Oxymore, votre magazine littéraire de la semaine. Donc, merci de nous écouter et donc, dans un petit instant, le sommaire de cette édition en compagnie de Leïla. Oxymore. Alors, le sommaire de cette édition, nous avons en quelque sorte trois invités, un Russe, un Égyptien et un Algérien francophone. Alors, le Russe, en fait, il n'est plus à présenter, il s'agit de Tolstoï, l'auteur du formidable roman « Guerre et paix ». Et puis Jamel Ritani, connu des Toulousains, puisqu'il a fait le voyage du Caire à Toulouse plusieurs fois, dans le cadre notamment du Marathon des Mots. Nous allons vous proposer avec Leïla un extrait de son livre « Muse et Égérie ». Et puis une nouvelle, j'espère que le temps nous le permettra, d'Anwar Benmelek, une nouvelle donc qui nous vient d'Algérie, intitulée tout simplement « Ève ». Voilà donc une petite présentation avant de vous proposer par la voix de Leïla les textes en question. Alors quelques mots de présentation de Tolstoï quand même. Alors le texte que nous allons vous proposer aujourd'hui est extrait de la nouvelle « Maître et serviteur ». Alors dans ce même livre, plutôt dans ce recueil de nouvelles, qu'on peut trouver dans les classiques de poche, il y a la mort d'Ivan Illich, mais la nouvelle étant très longue, et c'est un peu difficile de la présenter en une seule séance. Et puis la troisième nouvelle, c'est « Trois morts ». Alors, quand nous avons choisi ces textes, nous n'avons pas pensé qu'il y avait une relation presque intime entre les trois auteurs que nous avons découvert à la fin du choix que nous avons fait. Il y a un fil conducteur entre ces trois auteurs et ces trois textes en particulier, c'est-à-dire la nouvelle « Maître et serviteur », le texte de Jamel Ritani, Muse et Égérie, et puis la nouvelle Ève d'Anwar Benmelek. C'est une méditation, en fait, sur le caractère éphémère de la vie humaine et sur, disons, la mort, tout simplement. La mort qui est au cœur de l'œuvre de Tolstoï en particulier, nous allons y venir. Et puis, chez Jamel Ritani, c'est une réflexion sur une possible éternité qui passerait par le biais de la beauté et de la femme. Tandis que dans Ève, Anwar Benmelek nous parle du premier meurtre fratricide de l'histoire de l'humanité. Voilà donc, passons à Tolstoï. Avec quelques éléments. Alors chez Tolstoï, la mort rôde partout, hein, dans toute son œuvre, en particulier par exemple dans Anna Karenine, dans Guerre et Paix, etc. Donc il s'agit pour Tolstoï, non pas d'illustrer une idée et non de se colter avec une angoisse existentielle. En fait, il s'agit, à travers la mort, d'une véritable critique sociale de l'attitude devant la mort des protagonistes qu'il nous présente dans son œuvre. Donc, c'est une plongée aussi dans la condition humaine, dans maître et serviteur en particulier. Il s'agit donc de critiques sociales qui découlent du choix que Tolstoï décrit chez l'homme simple. Donc, signe des temps, nous dit-on, et du changement de la société, ce n'est plus une dame noble ni un haut fonctionnaire, mais un marchand que Tolstoï utilise pour illustrer l'égoïsme social. Parce que, comme le titre le dit si bien, il y a maître et serviteur, il y a deux personnages principaux. Tolstoï refusait bien sûr la lutte des classes entre le maître et le serviteur, mais il place la compétition sur le plan moral au moment crucial de la mort. Alors, le maître Vassili Andreïevitch ne sera jamais propriétaire de la forêt qu'il convoitait et il meurt dans la tempête. Mais avant de mourir, il réchauffe Nikita. Nikita, c'est le serviteur qui va survivre. Donc, voilà. Alors, sachez aussi que, tout simplement, que Tolstoï est né en 1828, que c'était un aristocrate. Il descendait des Volkonski par sa mère et des Tolstoï par son père. C'est un pur produit à l'origine de la classe dominante, la noblesse. Alors, il fera des études considérées comme médiocres, études à la faculté des langues, et il abandonne l'université et il s'installe sur les terres de sa famille à Isnaïnia Poliana. Alors, dès 1852, il écrit « Enfance » qu'il envoie au poète Nekrasov, qu'il imprime dans le journal Le Contemporain. Et donc, encouragé par ce premier succès, Tolstoï travaille à la suite de son autobiographie. Récit de l'incursion, publié dans Le Contemporain, il ébauche les Cosaques et la matinée d'un propriétaire. Donc, il participe au siège de Sébastopol, et là, il sera confronté à la guerre, et il en tirera les récits de Sébastopol en 1854. Alors, il publie Les deux hussards et Jeunesse, et lassé de la vie de la capitale, il va retourner à Isnaïnia Poliana, où il va échouer dans sa tentative de libérer ses paysans. Découragé, il part pour l'étranger. Ensuite, il fera partie de la commission chargée de l'application du manifeste d'émancipation des paysans, une mesure accordée par le tsar Alexandre II. Et il va s'acquitter de cette tâche avec grande conscience, et ce qui lui vaudra l'inimitié de nombre de propriétaires. Il développera aussi des activités d'enseignement et va créer une revue pédagogique vers 1861. Alors, c'est en 1863 qu'il va commencer Guerre et paix, et donc par une ébauche intitulé Les Décembristes. Faisons vite. Alors, vers 1880-81, c'est la fin d'une période dans l'œuvre de Tolstoï. Il va traverser une crise morale, religieuse, qui va l'amener à reconsidérer toutes les valeurs selon lesquelles il avait jusqu'à là vécu. Il va attaquer l'Église orthodoxe et confesser une foi nouvelle, originale, qui va l'opposer, bien sûr, donc à l'Église orthodoxe. Et ça se terminera par... il sera rejeté et donc mis au banc de l'Église orthodoxe. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Quelques éléments, donc inégalité, justice et mort. Voilà ce que nous pouvons vous proposer dans un instant avec la nouvelle Maître et Serviteur. Thank you.
Depuis le moment où il s'était assis, enveloppé dans la serpillière, sous l'arrière du traîneau, Nikita était demeuré immobile. Comme tous ceux qui vivent près de la nature et qui connaissent la misère, il était patient et pouvait attendre des heures, des journées entières, sans éprouver ni inquiétude, ni irritation. Il avait entendu les appels de son maître, mais n'y avait pas répondu, parce qu'il ne voulait ni remuer ni parler, bien qu'il eût encore chaud à cause du thé qu'il avait bu et du mouvement qu'il s'était donné en se débattant dans l'état de neige. Il savait que cette chaleur ne se maintiendrait pas longtemps et qu'il n'aurait pas la force de se réchauffer en remuant, car il se sentait aussi fatigué que l'est un cheval quand il s'arrête et est incapable d'avancer malgré les coups de fouet. Et alors son maître voit qu'il faut le nourrir pour qu'il puisse se remettre à travailler. Un de ses pieds, chaussé d'une botte trouée, était déjà froid et Nikita ne sentait plus son orteil. D'ailleurs, le froid gagnait peu à peu tout son corps. La pensée qu'il pouvait, qu'il devait même vraisemblablement périr cette nuit, lui vint à l'esprit. Mais cette pensée ne lui parut pas très désagréable ni trop effrayante. Elle ne lui parut pas trop désagréable, parce que son existence n'avait nullement été une fête continuelle, mais avait été au contraire une servitude incessante et dont il commençait à être là. Et cette pensée ne lui parut pas très effrayante, parce que les maîtres qu'il servait là-bas, mis à part tel Vassili Andreïtch, il sentait toujours qu'il dépendait en cette vie du maître principal, de celui qu'il avait envoyé dans cette vie. Et il savait qu'en mourant, il continuait à dépendre de ce maître et que ce maître ne lui ferait pas de mal. Dommage. Dommage d'abandonner tout ça avec quoi l'on a vécu, à quoi l'on est habitué, mais que faire? Il faut aussi s'habituer au nouveau. Et mes péchés, se demanda-t-il. Et il se rappela son ivrognerie, l'argent qu'il avait dépensé à boire, les mauvais traitements infligé à sa femme, ses jurons, l'église où il n'allait que rarement, le jeûne qu'il n'observait pas, et tous les péchés que le peuple lui reprochait à confesse. Oui, c'est vrai, mes péchés sont nombreux. Mais est-ce moi qui m'en suis chargé? C'est Dieu qui m'a fait tel, oui, les péchés, mais comment les éviter? Ainsi songeait-il à ce qui pouvait lui advenir cette nuit. Mais ensuite il ne pensa plus et s'abandonna aux souvenirs qui naissaient d'eux-mêmes en son esprit. Tantôt il se rappelait l'arrivée de Marfa, les beuveries des ouvriers et son vœu. Tantôt c'était leur départ la veille, l'isba de Taras et les conversations au sujet du partage. Tantôt c'était son gars ou le bai qui se réchauffait maintenant sous la couverture. Parfois, aussi il songeait à son maître qui faisait grincer le traîneau en s'agitant. Le pauvre est bien malheureux lui-même. Je pense de n'être pas resté à Grishkino. Une pareille existence. On n'a pas envie de la quitter. C'est bien autre chose que nous autres. Tous ces souvenirs peu à peu se confondirent et il s'endormit. Quand Vassili Andreïtch fit osciller le traîneau en grimpant sur le cheval, l'arrière auquel s'appuyait Nikita s'écarta et l'un des patins le heurta dans le dos. Il se réveilla et fut obligé, mon gré, mal gré, de changer de position. Il détendit avec peine ses jambes, écarta la couche de neige qui les recouvrait et se mit debout. Et aussitôt, il se sentit douloureusement transperté par le froid. Comprenant bien ce qui se passait, il avait appelé Vassili Andreïtch pour lui demander de laisser le balin dont le cheval n'avait plus besoin maintenant, mais dans lequel Nikita aurait pu s'envelopper. Mais Vassili Andreïtch partit sans lui répondre et disparut dans la poussière neigeuse qui tourbillait autour d'eux. Demeuré seul, Nikita réfléchit un instant à ce qu'il allait faire. Il se sentait incapable de marcher à la recherche de quelque logis. Il ne pouvait non plus se rasseoir à sa place qu'il venait d'abandonner, car elle avait déjà disparu sous la neige. Il sentait qu'il ne se réchaufferait pas dans le traîneau, car il n'avait rien pour se couvrir. Son caftan et sa pelouse ne pouvaient plus le protéger contre le froid. Il avait aussi froid que s'il n'avait eu qu'une chemise. Il eut peur. « Père Céleste, » dit-il. Et le sentiment qu'il n'était pas seul, que quelqu'un l'entendait et ne l'abandonnait pas, le tranquillisa. Il soupira profondément et sans enlever la serpillière qui recouvrait sa tête, il monta dans le traîneau et s'y étendit à la place de son maître. Mais dans le traîneau non plus, il ne parvenait pas à se réchauffer. Un tremblement secouait son corps. Puis ce tremblement cessa, et peu à peu, il perdit connaissance. Il ne savait pas s'il mourait ou s'il s'endormait, mais il se sentait prêt aussi bien à l'un qu'à l'autre. Pendant ce temps, Vassili Andreïtch, frappant le cheval des jambes et de la bride, poussait l'animal dans la direction où il pensait. On ne sait pourquoi que devait se trouver la forêt et la cabane de garde. La neige l'aveuglait et le vent, semblait-il, voulait l'arrêter. Mais penché en avant, ramenant sans cesse les pans de sa pelisse et les fourrant entre ses cuisses et la sellette glacée, qui l'incommodait beaucoup, il forçait l'allure du cheval, qui, bien qu'à grand-peine, courait l'amble dans la direction où l'homme voulait aller. Ils avancèrent ainsi pendant 5 minutes, toujours tout droit, semblait-il, à Vassili Andreïtch, qui ne voyait rien d'autre que la tête du cheval et le désert blanc tout autour, qui n'entendait rien d'autre que les sifflements du vent près du col de sa pelisse. Soudain, il aperçut quelque chose de noir devant lui. Son cœur battit joyeusement et il dirigea sa monture vers cette masse noire, croyant déjà y distinguer les murs des maisons du village. Mais la chose noire n'était pas immobile, elle ne cessait de bouger. Ce n'était nullement une maison, mais de hautes armoires qui avaient poussé dans cette dérayure et qui s'agitaient désespérément sous la poussée du vent qui les courbait d'un côté et sifflait dans les ramures. Et l'on ne sait pour quelle raison, la vue de ces armoires que tourmentait la tempête implacable fit tressaillir de terreur Vassili Andreïtch. Et il poussa son cheval en avant sans s'apercevoir qu'en s'approchant des armoises, il avait changé de direction. Il avançait maintenant dans un autre sens, tout en s'imaginant qu'il allait droit vers la forêt et la cabane. Mais le cheval tournait tout le temps à droite et c'est pour cela qu'il le dirigeait vers la gauche. Et de nouveau, il distingua quelque chose de noir devant lui. Il se réjouit, certain que cette fois ce devait être le village, mais c'était la même dérayure et les mêmes armoises que fouettait le vent et qui, on ne sait pourquoi, remplissaient Vassili Andreïtch de terreur. Non seulement c'étaient les mêmes herbes sèches, mais auprès d'elles on distinguait les traces de pas d'un cheval, que le vent nivelait déjà. Vassili Andreïtch s'arrêta, se pencha, regarda attentivement. Un cheval avait passé par là et ce ne pouvait être que le sien. Vassili Andreïtch tournait évidemment en cercle dans un petit espace. « Je vais périr si je continue ainsi. » Mais pour lutter contre sa terreur, il se mit à presser son cheval encore davantage, s'efforçant de percer du regard la brume neigeuse dans laquelle il lui semblait voir scintiller des points lumineux qui disparaissaient aussitôt qu'il les fixait. Une fois, il crut entendre des aboiements de chiens ou des hurlements de loups, mais ces sons étaient si faibles, si indistincts, qu'il ne pouvait se rendre compte qu'il entendait vraiment quelque chose, ou bien s'il s'illusionnait. S'arrêtant, il prêta l'oreille, tâchant de saisir le moindre son. Soudain, un cri épouvantable, assourdissant, retentit à ses oreilles et il se sentit secoué d'un tremblement convulsif. Vassili Andreïtch embrassa le cou du cheval, mais ce cou tremblait aussi et l'horrible cri devint encore plus épouvantable. Durant quelques secondes, Vassili Andreïtch ne put reprendre ses esprits et se rendre compte de ce qui se passait. Or, il s'était produit tout simplement ceci, que pour se donner du courage ou bien pour appeler au secours, le bai s'était mis à bénir, à hennir de toute la force de ses poumons. « Que la mort te prenne, maudit !» jura Vassili Andreïtch. « Comme il m'a effrayé !» Mais même après avoir compris la vraie cause de sa terreur, il ne parvint pas à la surmonter. « Il faut réfléchir, il faut se calmer, » se disait-il. Mais il était incapable de se ressaisir et ne cessait de presser sa monture sans voir qu'il avait maintenant le vent dans le dos et non plus en face comme auparavant. Il avait froid, il avait mal partout et particulièrement à l'endroit où son corps se trouvait en contact avec la sellette. Ses mains et ses pieds tremblaient, sa respiration était haletante. Il sentait qu'il allait périr au milieu de cet affreux désert de neige mais ne voyait aucun moyen de salut. Tout à coup, le cheval s'effondra sous lui et plongea dans un amas de neige. En se débattant, il tomba sur le côté. Vassili Andreïtch sauta dans la neige, faisant glisser la sellette sur laquelle il s'était appuyé en sautant. dès que Vassili Andréitch l'eut délivré. Le cheval se redressa, prit son élan, fit deux bonds et disparut de la vue de son maître en hennissant et entraînant derrière lui le balin et la baloire. Vassili Andréitch resta seul, à moitié enseveli dans la neige. Il voulut se précipiter après sa monture, mais la neige était si profonde et ses pelisses étaient si lourdes qu'il ne put faire plus d'une vingtaine de pas en trébuchant et s'arrêta tout essoufflé. La forêt, les fermages, la boutique, les cabarets, la maison, le hangar sous toit de fer, l'héritier. Qu'adviendrait-il de tout cela? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est impossible, se dit-il brusquement. Et il se souvint soudain des armoises que le vent secouait et devant lesquelles il était passé deux fois. Et une épouvante telle le saisit qu'il refusa de croire à la réalité de ce qui lui arrivait. N'est-ce pas un rêve? Se demanda-t-il, et il voulut se réveiller, mais cette neige était bien réelle qui fouettait son visage, recouvrait ses vêtements et glaçait sa main droite dont il avait perdu le gant, et il était bien réel ce désert où il se trouvait maintenant seul, comme ses armoises, dans l'attente d'une mort inévitable, rapide et inepte. Mère Céleste, Saint-Père Nicolas, modèle d'abstinence, il se rappela l'office de la veille à l'église, l'icône au visage noirci dans un cadre doré et les cierges qu'il vendait, que les fidèles allumaient devant cette icône et qu'on lui rapportait aussitôt presque entier parce qu'il les cacha dans le tiroir de sa caisse. Et il se mit à prier ce même thaumaturge Nicolas, lui promettant une russe, une messe et des cierges. Mais il comprit aussitôt très clairement, sans nul doute possible, que l'icône, les cierges, le prêtre, les messes, tout cela était fort important. Mais cela était nécessaire là-bas, à l'église, mais que toutes ces choses ne pouvaient lui être d'aucun secours. Ici, qu'entre ses cierges et ses messes d'une part, et sa situation désespérée d'autre part, il ne pouvait y avoir aucun rapport. Il ne faut pas se laisser abattre, songea-t-il, il faudrait suivre les traces du phal car elles vont disparaître. Elles me guideront et je le rattraperai. Le tout est de ne pas se hâter, autrement je m'éreinterai et alors je suis perdu. Mais bien qu'il eût résolu de marcher lentement, il se précipita en avant et se mit à courir, tombant sans cesse, se relevant et retombant de nouveau. Les traces n'étaient plus qu'à peine visibles, là surtout la neige n'était pas profonde. « Je vais périr, » se dit Vassili Andréitch. « Je perdrai les traces et ne pourrait rattraper le cheval. » Mais au même instant, levant les yeux, il aperçut une tache noire. C'était le bai, et c'était aussi le traîneau et les brancards avec le mouchoir. Le bai, l'avaloir de travers, se tenait non plus à son ancienne place, mais plus près des brancards, et secouait la tête, l'extrémité de la bride s'étant enroulée autour de sa jambe. Il se trouva que Vassili Andréitch était tombé dans ce même tas de neige dans lequel il s'était effondré auparavant avec Nikita, que le cheval l'avait ramené auprès du traîneau et qu'il l'avait abandonné ensuite à une cinquantaine de pas.